France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique.
Virginia Woolf, une femme contre les symboles, c'est une émission de Viviane Forrester, réalisée en 1973. Cette nuit, septième et dernière émission, la guerre et le suicide. Sur le climat antisémite en 1940 qui poussait au désespoir. La menace allemande et la liste noire d'Hitler contre les juifs anglais. Le désir de suicide du mari de Virginia, Leonard Woolf. Les marques de la folie chez l'écrivain, les voix qu'elle entendait. Récit, lecture de la journée du suicide par Madame Maillet, sa gouvernante.
La mort liée au symbole de l'eau, l'idée de la mort, ont parcouru la vie, l'œuvre de Virginia Woolf. Telle cette eau qui va redevenir élément pour bientôt l'engloutir. Mais ce n'est pas l'eau, ce sont l'acier, le feu, la guerre et ses machines qui accompagnent les derniers mois de l'écrivain. La mort est proche, permanente, concrète. Londres est bombardée. En septembre 1940, la maison de Tavistock Square, qui abrite les éditions Hogarth, est très endommagée. Leonard et Virginia ne parviennent même pas à l'atteindre parmi les décombres. Les archives de la Hogarth Press sont détruites et la maison d'édition transférée en province provisoirement. En octobre, c'est la demeure des Woolf à Londres qui est entièrement détruite. À la campagne, à Monk House, où ils vivent désormais en permanence, des avions s'abattent dans les champs. Et près de la maison, des bombes explosent.
La nuit dernière, l'énorme explosion d'une bombe, presque sous la fenêtre, si proche que nous avons sursauté. J'ai dit à Léonard, je ne veux pas encore mourir. Oh, j'essaie d'imaginer comment c'est d'être tué par une bombe. Je saisis la sensation avec acuité. Mais je ne peux rien percevoir d'autre ensuite, sinon un vide suffocant. Je penserais, oh, j'aurais voulu encore 10 ans, pas ça. Et pour une fois, je ne serais pas à même de le décrire.
Ce refus de mourir, ces 10 années réclamées, on les retrouve souvent chez Virginia en ce temps de guerre, et quelques mois seulement avant son suicide. Léonard semble conserver cette sagesse sereine, si précieuse à sa femme.
Un après-midi, comme je plantais des iris sous un pommier dans le verger, j'entendis la voix de Virginia qui m'appelait de la fenêtre du salon. « Hitler fait un discours. » Je criai en réponse, « Je ne viendrai pas. Je plante des iris, et ils fleuriront longtemps après sa mort. » Au mois de mars dernier, quelques-unes de ces fleurs violettes fleurissaient encore sous le pommier dans le verger. 21 ans après que Hitler se soit suicidé dans son bunker.
Et 21 ans après le suicide de Virginia dans la rivière Ars. Mais juif, socialiste, depuis longtemps Leonard Woolf est à l'écoute des événements d'Europe. En 1938, Virginia raconte déjà les récits très précis que Bruno Walter, d'autres, leur font des persécutions nazies. Les Juifs étaient pourchassés, battus, humiliés partout en public, dans les rues des villes. J'ai vu la photo d'un Juif traîné par des soldats hors d'un magasin dans l'une des principales rues de Berlin. Son pantalon déchiré, afin que l'on puisse voir qu'il était circoncis, donc Juif. Sur le visage de l'homme, il y avait cette horrible expression de souffrance totale et de désespoir que depuis le début de l'histoire humaine, les hommes découvrent sous les couronnes d'épines, sur les visages de leurs victimes persécutées, humiliées. Et sur la photo, ce qu'il y avait de plus horrible, c'était l'expression des hommes et des femmes respectables, attroupés et qui se moquaient de la victime. Léonard se sent menacé. Le poète Steven Spender, son ami, précise sur un plan purement politique.
J'étais moi-même dans ce complot avec Leonard Woolf parce que nous étions des anti-nazis, n'est-ce pas? Mm. Et nous avons pensé que si les nazis arriveraient, nous serions envoyés dans les camps de concentration mm. parce que nous étions sur la liste noire de Hitler, n'est-ce pas? Des gens qui devraient être arrêtés tout de suite si les Allemands arrivaient.
Et surtout juifs, Léonard ne se fait pas d'illusions sur son destin au cas où l'Angleterre serait vaincue. Hypothèse qu'il envisage sérieusement en 1940. Sa réaction peut surprendre, toutefois.
Nous avons calmement discuté de ce que nous ferions si Hitler débarquait. Le moins que je puisse attendre alors en tant que juif, c'était d'être battu. Nous avons décidé que le temps venu, il n'y aurait aucune raison d'attendre. Nous fermerions la porte du garage et nous nous suiciderions.
Mais à l'insu de son mari, Virginia se rebelle et dans son journal intime...
Non, je ne veux pas que le garage voie ma fin. Je souhaite encore 10 années et d'écrire mon livre. Pourquoi suis-je optimiste? Ou plutôt ni l'un ni l'autre? Parce que la guerre, ce n'est qu'une boursouflure. Une vieille dame épinglant son chapeau a plus de réalité. Si l'on mourait, ce serait une fin logique, éterne. Si peu de choses, auprès d'une longue promenade dans la journée, suivie d'une soirée à lire au coin du feu.
Et cette menace d'un suicide dans le garage la hante.
9 juin 1940. Je vais continuer, mais le pourrais-je? La pression de cette bataille détruit Londres avec rapidité. Une journée irritante. Un exemple de mon humeur actuelle, je songe qu'une capitulation signifiera tous les Juifs livrés. Les camps de concentration. Alors, notre garage. Voilà ce qui guette tandis que je corrige mes épreuves ou que je joue aux boules.
Si Léonard renonce à l'asphyxie dans le garage, c'est qu'Adrien, le frère de Virginia, lui a procuré une double dose mortelle de morphine. Ainsi, tous les remparts s'effondrent autour de Virginia.
Tous les murs protecteurs, les murs qui reflètent, ça m'insiste terriblement avec la guerre.
Même Léonard, le pilier, le roc, parle de suicide à cette femme suicidaire et puis...
Nous vivons sans lendemain. C'est ce qui est bizarre. Le nez collé contre une porte close.
Cependant, John Lehman ne pense pas que la guerre ait été néfaste à Virginia. Il dirigeait alors avec Léonard les éditions Hogarth et la voyait régulièrement.
La guerre ne l'effrayait pas, parce que vous savez, les gens qui sont comme ça aiment les choses concrètes, qui sont là, n'est-ce pas? C'est les choses dans la tête qui les effraient, n'est-ce pas? Et Virginia Woolf n'était pas effrayée par la guerre, elle n'était pas effrayée par les bombes, pas du tout. Mais c'était la crise qui s'est développée quand elle finissait « between the acts », entre les actes.
Oui, malgré la guerre, Virginia écrit dans la paix intérieure, son dernier livre entre les actes, et sans difficulté, presque dans la joie. C'est peut-être son meilleur ouvrage et celui qui ouvre le plus de brèches, vers des recherches libres, multiples. Pendant quelques mois, c'est l'apaisement. Un an, à un jour près, avant son suicide.
29 mars 1940. Je pressens des états de paix et de sensations, non pas d'idées. Je rêve aussi d'un livre de prose poétique. Peut-être ferai-je aussi un gâteau de temps en temps. Car Dieu sait, j'ai rempli mon devoir avec une plume et de l'encre vis-à-vis de la race humaine. Les jeunes écrivains peuvent se débrouiller seuls. Oui, je mérite un printemps. Je ne dois rien à personne. Et maintenant, noyé dans le flot des eaux libres, Je vais lire Whymper jusqu'au déjeuner.
On notera au passage l'inévitable allusion à la noyade, à l'eau. Mais la guerre continue. Entre les actes, touche à sa fin. Miss Latrobe dans le livre reste seule, après que le public se soit dispersé. La représentation d'amateurs en plein air, son œuvre, est terminée.
Et la scène était vide. Miss Latrobe s'appuya contre un arbre, paralysée. Son pouvoir l'avait quittée. Des gouttes de sueur jaillirent sur son front. L'illusion avait échoué. « Cela, c'est la mort, » murmura-t-elle. « La mort. »
Miss Latrobe, qui voulait tendre une toile de fond entre les arbres pour faire disparaître les vaches, les hirondelles, le temps présent, mais qui n'avait rien, et qui avait interdit la musique. « C'est la mort, » répète-t-elle, quand l'illusion échoue. Comment lire les pages de ce dernier livre sans émotion, où Virginia Woolf et Miss Latrobe vivent l'extase et la pire déception. Miss Latrobe, elle, songe déjà à son prochain spectacle. Au pire moment de sa défaite, lorsque la terre autour d'elle devient n'importe quelle terre, elle pose sa valise, regarde cette terre, et quelque chose surgit à la surface.
« Je devrais les grouper, » murmura-t-elle. « Ici. Il serait minuit. » Il y aurait deux silhouettes à moitié cachées par le rocher. Le rideau se lèverait. Quels seraient les premiers mots? Les mots lui échappaient.
Mais Virginia Woolf ne songe plus au prochain spectacle. C'est la crise, soudaine, brutale. Et cette fois, aucun des symptômes habituels n'avertit Léonard. Il ne pourra pas prévenir la dépression. Et cette fois, il y a la guerre. Il y a l'âge. Il n'y a plus d'espoir pour Virginia. Elle sombre. Elle lutte encore, tente de se raccrocher à des faits concrets, à des occupations précises. Elle lutte. Les dernières pages de son journal la montrent glissant, se raccrochant désespérément à la vie quotidienne. Jusqu'au bout, elle tient ferme. À la dernière page de son journal, elle décrit encore un salon de thé à Brighton, la serveuse, le printemps. Elle termine.
Pas d'introspection. Je note la phrase de Henry James. Observe sans arrêt. Observe la venue de l'âge. Observe la cupidité. Observe ton propre accablement. Par ce biais, tout deviendra utile, du moins je l'espère. J'insiste pour tirer de ce temps tous les avantages. Je sombrerai pavillon haut. Ceci, je vois, frôle l'introspection, mais n'y cède pas tout à fait. Imaginez que j'achète un ticket d'entrée au musée, que je fasse de la bicyclette chaque jour et lise de l'histoire. Imaginez que je choisisse un personnage de chaque époque et que j'écrive à son propos. S'occuper est essentiel. Et maintenant, avec un certain plaisir, je découvre qu'il est 7 heures. Et je dois faire le dîner. Ad hoc et saucisses. C'est vrai que l'on obtient une certaine emprise sur les saucisses et le ad hoc en les écrivant.
Le ad hoc, l'écriture, ne suffiront pas. Des voix appellent Virginia. Le souvenir des crises précédentes la harcèle. Et puis il y a l'âge, il y a la guerre, il y a l'eau. Un étrange épisode a lieu.
Je ne suis pas sûr que plus tôt dans la semaine, elle n'ait pas essayé, mais en vain, de se suicider déjà. Elle était partie se promener le long de la rivière par une pluie diluvienne, et j'étais allé, comme souvent, à sa rencontre. Elle était revenue par les champs, trempée, l'air malade, hagarde. Elle dit qu'elle avait glissé et qu'elle était tombée dans un chenal. Sur le moment, je n'avais rien soupçonné de précis, mais j'avais été saisi d'un sentiment de malaise désespéré.
Et c'est le jour fatal. Louis Mayer, la femme de ménage des Wolfe à Monkhouse, en a dicté le récit.
Madame Wolfe était malade une fois de plus, et cette fois, elle semblait avoir de grandes difficultés pour guérir. Un matin, comme je nettoyais le bureau de Monsieur Wolfe, ils sont entrés tous les deux, et Monsieur Wolfe me dit « Louis, voulez-vous donner un chiffon à Madame Wolfe pour qu'elle puisse vous aider à nettoyer cette pièce ?» Il lui avait parlé dans sa chambre à coucher ce matin-là, car elle semblait de nouveau dans un mauvais jour, et il devait avoir suggéré une occupation, peut-être m'aider au ménage. Je lui donnais un chiffon, mais cela paraissait très étrange. Je ne l'avais encore jamais vu faire le ménage avec moi. Au bout d'un moment, Madame Wolfe a posé le chiffon et est sortie. J'ai pensé qu'elle n'aimait sans doute pas nettoyer le bureau et qu'elle avait décidé de faire autre chose. Plus tard, dans la matinée, je l'ai vue descendre du salon et se rendre dans son bureau à elle, dans le jardin. Quelques minutes après, elle est revenue à la maison, a mis son manteau, pris sa canne et elle est sortie rapidement par la grille du jardin. Elle avait dû écrire une lettre pour Monsieur Wolfe et pour sa sœur lorsqu'elle était dans le salon, les laisser sur la table à café, puis se précipiter dehors pour que je ne la voie pas. Lorsque j'ai sonné la cloche à 1 heure pour prévenir Monsieur Wolfe que le déjeuner était prêt, il me dit qu'il allait monter écouter les nouvelles à la radio et qu'il serait là dans quelques minutes. L'instant d'après, il descendait en courant l'escalier. Il m'appelait « Louis ! Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Madame Wolfe. Je crois qu'elle a dû essayer de se tuer. De quel côté est-elle allée ? L'avez-vous vu quitter la maison ?» Elle est partie par la grille du jardin il y a un moment, ai-je répondu. Et soudain, ce fut un cauchemar terrible. Nous avons couru dans le jardin. J'ai été chercher le jardinier au cas où il aurait vu Madame Wolfe revenir. Monsieur Wolfe, lui, est allé à la grille du jardin. Il a couru vers la rivière. Le jardinier n'avait pas vu Madame Wolfe. Aussi est-il allé le plus vite qu'il le pouvait chercher le policier de service au village. Ils sont allés, tous les deux, vers la rivière, voir s'ils pouvaient aider Monsieur Wolfe. Il avait trouvé là la canne de Madame Wolfe plantée dans la boue sur la berge. Mais il n'y avait aucune trace de Madame Wolfe. Ils l'ont cherchée longtemps, mais rien ne paraissait indiquer où elle était. Monsieur Wolfe se demandait si elle n'avait pas laissé sa canne là pour les détourner et s'il n'était pas allé à Shepherd Cottage. C'était là une de ses promenades favorites et il était possible qu'elle y souhaite aller de ce côté-là pour être seule, sans savoir vraiment ce qu'elle faisait. Mais elle n'y était pas. Nous sommes revenus et nous l'avons cherchée le long du canal et des berges de la rivière et des ruisseaux jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis nous avons dû renoncer. Il n'y avait plus rien qu'aucun de nous puissions faire. 2 semaines plus tard, un policier est venu à la maison dire à Monsieur Wolfe que le corps avait été retrouvé. Des enfants en se promenant le long de la rivière près de Lewis avaient vu son corps échoué sur la berge. Il dit qu'il y avait de lourdes pierres dans les poches de sa veste. Elle avait dû les mettre là et marcher droit dans la rivière. Et c'était terrible. C'était la chose la plus terrible que j'ai jamais connue.
Virginia Woolf n'écrira plus. Virginia Woolf est morte. Léonard est seule. Elle a laissé encore un signe, 3 lettres. Les 3 lettres écrites, tandis que Louis Mayer achevait le ménage. 2 lettres à Léonard, 1 à Vanessa. Vanessa Belle. À Léonard.
Très cher, je suis certaine de devenir folle à nouveau. Je sens que nous ne pouvons plus traverser une autre de ces affreuses périodes. Et je ne guérirai pas cette fois. Je commence à entendre des voix et je ne puis plus me concentrer. Aussi vais-je faire ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été tout ce que l'on peut être. Je ne crois pas que 2 personnes aient pu être plus heureuses jusqu'à ce que cette terrible maladie survienne. Je ne peux pas lutter plus longtemps. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler. Et tu vas le faire, je sais. Tu vois, je ne peux même pas écrire ceci correctement. Je ne peux pas lire. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu as été entièrement patient avec moi et incroyablement bon. Je veux dire cela. Tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, ça aurait été toi. Tout m'a quitté sauf la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. Je ne crois pas que deux personnes aient jamais pu être plus heureuses que nous l'avons été. Virginia. Tu trouveras les lettres de Roger à Moron dans le tiroir de mon bureau. Veux-tu brûler tous mes papiers?
À Vanessa.
Très chère, tu ne peux imaginer comme j'ai aimé ta lettre. Mais je sens que j'ai été trop loin cette fois pour revenir de nouveau. Je suis certaine à présent que je deviens folle à nouveau. C'est exactement comme la première fois. J'entends tout le temps des voix, et je sais que je ne m'en sortirai pas cette fois. Tout ce que je veux dire, c'est que Léonard a été étonnamment bon chaque jour, toujours. Je ne puis imaginer que quelqu'un aurait pu faire plus pour moi que lui. Nous avons été parfaitement heureux jusqu'à ces dernières semaines, lorsque cette horreur a commencé. Peux-tu le persuader de cela? Je sens qu'il a tant de choses à faire qu'il continuera bien mieux sans moi, et tu l'aideras. Je peux à peine penser clairement maintenant. Si je pouvais, je te dirais ce que toi et les enfants avaient représenté pour moi. Je crois que tu le sais. J'ai lutté contre ça, mais je ne peux plus. Virginia.
Léonard est seul. Cette longue lutte acharnée contre le désir de mort de sa femme s'est achevée par une défaite. Mais nous le retrouvons, solitaire à Monk House, et toujours proche de Virginia, veillant sur son enterrement, sur sa fin, comme il a veillé sur sa vie, comme il veillera ensuite, pendant des années jusqu'à sa propre mort, sur le destin de ses livres, sur l'œuvre accomplie.
Je lui avais dit une fois que s'il fallait de la musique pour accompagner une crémation, cela devrait être la cavatine du quartet B, opus 130 de Beethoven. Il y a un moment, durant la crémation, où les portes du crématorium s'ouvrent et le cercueil glisse lentement. Et il y a un moment au milieu de la cavatine où, pendant quelques mesures, d'une incroyable beauté, la musique semble hésiter avec un mouvement de pulsion très doux vers l'avant. Jouée à ce moment, elle semblerait pousser doucement le mort dans l'éternité de l'oubli. Virginia avait été de mon avis. J'aurais voulu organiser cela, mais je n'y parvins pas. Il me sembla impossible d'en discuter avec le doyen. Impossible qu'il puisse se procurer la musique. Et puis la longue horreur des semaines précédentes m'avait comme anesthésié. C'était comme si j'avais été battu et roué de coups. Et j'étais comme un animal traqué qui ne peut plus que se traîner instinctivement vers son trou, son terrier. À ma surprise, en fait, on joua la musique de Esprit béni de l'Orphée de Gluck lorsque les portes s'ouvrirent et que le cercueil disparut. Le soir, j'ai joué la cavatine. J'ai enterré les cendres de Virginia au pied d'un grand chêne sur le bord de la grande pelouse du jardin qui donne sur les champs et la rivière. Il y avait deux grands chênes aux branches entrelacées que nous avions toujours appelés Léonard et Virginia. Au cours de la première semaine de janvier 1943, dans une grande rafale, un des chênes fut déraciné.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. Old words in new orders, so that they survive, so that they create beauty, so that they tell the truth.
Des mots anciens dans un ordre nouveau, et qui créent la beauté, qui disent la vérité.
And the person who could answer that question would deserve whatever crown of glory the world has to offer.
À qui accomplira cela, toute la gloire, la splendeur que le monde peut offrir.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. Old words in new orders, so they survive.
C'était Virginia Woolf, Une femme contre les symboles, une émission de Viviane Forrester. Première diffusion le 15 janvier 1973.